Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
La cloche de la rentrée a sonné dans les écoles grecques. Les vacanciers sont redevenus écoliers. Et malgré une économie toujours en berne, le pays essaye tant bien que mal d'intégrer des milliers d'enfants réfugiés dans son système scolaire. Reportage de notre correspondant sur place. Mais avant, on va parler d'une institution souvent accusée de partialité sur le continent africain, alors qu'elle est très respectée ici en Allemagne. Il s'agit de la Cour constitutionnelle. Vous écoutez la Deutsche Welle, c'est Constance Wenkötze au micro. Guten Tag, bonjour à tous. Elle siège à Karlsruhe, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Elle est composée de deux sénats de 8 juges qui siègent chacun pendant 12 ans et qui ne sont pas rééligibles. La Cour constitutionnelle fédérale est un organe de première importance en Allemagne. Une juridiction dont les décisions sans appel sont dans la majorité des cas bien accueillies par l'opinion publique. Son fonctionnement a même inspiré d'autres pays, notamment en Europe de l'Est. On est loin de l'exemple actuel du Gabon, où la Cour est surnommée « Tour de Pise » en raison du penchant qu'on lui prête pour le pouvoir en place. Alors comment fonctionne la Bundesverfassungsgericht? C'est l'une des questions que nous avons posées à Johann Villain. Il est directeur d'études à l'École européenne du droit, basée à Berlin.
En termes de conditions à la nomination, il est nécessaire, et c'est une particularité justement en Allemagne, que les juges aient réalisé un cursus juridique plein et entier. Il est également nécessaire que dans chaque chambre, on ait trois juges professionnels qui soient recrutés parmi les magistrats des cours suprêmes de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Et puis, on a une assez forte représentation des professeurs de droit.
Et le président de la Cour ?
Le président est nommé par à la fois le Bundestag et le Bundesrat, à une majorité des deux tiers. En revanche, les membres, eux, sont nommés soit par le Bundestag ou soit par le Bundesrat, pareillement à une majorité des deux tiers. Donc on s'assure grâce à cela que les membres qui sont élus bénéficient d'une assise parmi les partis politiques suffisamment large afin de garantir justement la neutralité politique des membres de la Cour constitutionnelle fédérale.
Est-ce qu'il y a d'autres garanties pour leur indépendance ?
On a différents moyens d'assurer justement une nomination qui soit très consensuelle, mais à la fois de prévoir un mandat qui soit un mandat non renouvelable de 12 ans, donc une durée suffisamment longue pour s'installer dans la pratique de la Cour, mais malgré tout qui ne permet pas un renouvellement de ses membres ad vitam aeternam. On n'a pas de membres de droit, on n'a pas non plus des membres à vie comme dans le cas des États-Unis.
La Cour a beaucoup de compétences et notamment elle peut également statuer sur des contentieux électoraux. Mm-hmm. Comment ça se passe pour ce point précis ?
Alors en matière électorale, il faut distinguer deux types de compétences. La première, ce sont les recours qui sont effectués contre la loi électorale, donc pour vérifier si la loi électorale respecte elle-même les exigences posées par la Constitution fédérale. Et puis on a un second type de recours auquel vous faites effectivement référence, qui sont les recours qui visent à contrôler les élections. La Cour constitutionnelle fédérale n'a jusqu'à présent pris aucune décision conduisant à l'annulation définitive d'une élection. On a le souci malgré tout de conserver une certaine forme de continuité dans l'élection qui ont eu lieu et de ne pas les remettre en cause dans leur totalité.
La Cour constitutionnelle a une meilleure réputation en Allemagne que dans beaucoup de pays africains et d'ailleurs pas seulement au Gabon. Comment vous expliquez ça ?
Il y a différents facteurs qui expliquent justement l'aura dont bénéficie la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Le premier, on peut dire, il est historique. Il y a une confiance traditionnelle dans la figure du juge, également dans la figure du juriste, et dans l'idée justement que le juge est un gardien du droit des individus face à l'État. Contrairement où en France, par exemple, et cette idée, elle a influencé sans doute aussi un certain nombre de pays africains qui ont connu le modèle français au moment des temps coloniaux, où il y a une forme de méfiance vis-à-vis précisément de ce qu'on appelle le gouvernement des juges, vis-à-vis de l'idée que des personnes qui seraient illégitimes viendraient prendre des décisions qui iraient à l'encontre des choix de la majorité, qui est en général ici assimilée à la totalité de la population. En Allemagne, on a malgré tout ici une idée que les juges sont ici, la Cour constitutionnelle fédérale tout particulièrement, également présents pour garantir la démocratie au sens du respect à la fois des droits de la majorité, mais également des droits de la minorité. Il y a un second facteur, c'est la possibilité d'avoir un recours direct de chaque individu devant la Cour constitutionnelle fédérale, en protection des droits fondamentaux. Et puis on a sans doute cette idée que des experts prennent des positions qui vont être argumentées, qui vont être assez neutres. Ceci, ça participe également de l'acceptation de la Cour constitutionnelle fédérale auprès de la population allemande. Il y a malgré tout parfois des controverses qui existent ou qui ont existé. Au tout début de la création de la Cour, on a eu des tentatives d'influencer la Cour, ou en tout cas de la doter de certaines procédures ou de certains moyens ou de certains budgets qui avaient évidemment une influence sur ses garanties d'indépendance. Elle a réussi à s'en émanciper, elle a eu une jurisprudence particulièrement active, elle a fait un effort véritablement de transparence et ceci a conduit évidemment à cette forte acceptation de la Cour constitutionnelle fédérale parmi les instances et les organes constitutionnels allemands.
C'était Johann Villain, directeur d'études à l'École européenne du droit à Berlin. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos réflexions sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle en Allemagne et ailleurs. Notre adresse mail, c'est celle-ci.
Écrivez-nous à français@dw.com.
Vous écoutez Vue d'Allemagne, direction la Grèce. Rentrée pas comme les autres cette semaine dans ce pays, pas moins de 18 à 20 000 réfugiés mineurs doivent aussi prendre ou reprendre le chemin de l'école. Cela implique une logistique complexe pour un pays en récession économique depuis 7 ans. Tout le monde semble prêt cependant à relever le défi. Thomas Jacobi, notre correspondant à Athènes, nous en dit plus.
Les enfants courent dans tous les sens, les parents sourient, c'est que cette première entrée, pas comme les autres, s'est bien passée. Suzanne, réfugiée syrienne et maman de 7 enfants, est heureuse.
J'ai dit à des amis qui ont des enfants qu'on mettrait nos enfants dans la même école pour qu'ils restent ensemble. Si ça se trouve, on va passer un bon bout de temps en Grèce. Il faut que les enfants apprennent le grec, l'anglais, tout. Il faut qu'ils aillent à l'école.
Nous nous trouvons à l'hôtel City Plaza, un hôtel autogéré par des activistes. 380 réfugiés y vivent, dont 120 enfants. Ici, on s'est préparé tout l'été pour cette rentrée, comme l'expliquait Rini, professeur volontaire.
Le matin, les enfants ont des cours dans leur langue avec des instituteurs d'ici. La difficulté majeure réside dans le fait que soit ils ne connaissent pas du tout l'environnement scolaire, soit ils n'y ont plus accès depuis longtemps.
Lina, jeune adolescente syrienne de 16 ans, a bénéficié de ces cours, elle est heureuse et le dit.
Ici, on a une série de langues qu'on peut apprendre. Il y a des cours de français, d'allemand. Moi, j'ai suivi des cours d'anglais.
Pendant que Lina nous parle, Janus Androulidakis, activiste au City Plaza, intervient. Pour lui, cette rentrée est plus qu'une simple rentrée scolaire. C'est un retour à la vie pour tous ces enfants marqués par la guerre et l'exode.
Un adulte peut réfléchir et analyser même dans les pires situations. Tandis qu'un enfant qui a subi des bombardements, il gardera toute sa vie la peur en lui. Nous nous devons d'agir maintenant, immédiatement, afin d'empêcher ces enfants de devenir des adultes hantés par leur traumatisme.
Du haut de son bureau, au troisième étage d'un énorme bâtiment à la périphérie d'Athènes, le ministre de l'Éducation, Nikos Philis, est d'accord. Mais pour lui, le problème est ailleurs.
Le plus difficile, c'est de trouver des profs et instituteurs parlant le pachtou, ourdou, farsi et d'autres langues qui ne sont pas courantes en Grèce. Ce n'est pas qu'une question de communication linguistique, mais aussi de confiance. Normalement, en Grèce, l'école est obligatoire, mais on ne peut pas le leur imposer. Il faut convaincre. Il faut à tout prix que les parents soient persuadés que c'est pour le bien de leurs enfants. Sinon, ça n'ira pas.
Autre problème, trouver les fonds nécessaires à cette rentrée plus compliquée que les autres.
Malgré les difficultés, l'argent, nous l'avons trouvé. Nous estimons que pour une durée de 9 mois, dans un premier temps, le coût pour les salaires et dans certains cas la création d'unités scolaires et jardins d'enfants dans les camps sera de 7 millions d'euros. Les jardins d'enfants sont partout très importants parce que les mamans ne laissent pas partir de bon cœur leurs enfants de 4 à 5 ans. Elles veulent les avoir autour d'elles en permanence.
Du coup, dans les camps éloignés des centres-villes, les écoles et jardins d'enfants sont construits à l'intérieur des camps. Partout ailleurs, la règle est de faire sortir les enfants des camps, une priorité absolue pour Daniel Esdras, à la tête de la branche grecque de l'OIM, Office international des migrations, qui finance l'opération.
Nous avons tout mis en place pour prendre les enfants des camps d'accueil avec des bus dans des écoles publiques où après la fin des cours réguliers, ils apprendront le grec pendant quelques heures tous les jours durant 9 mois pour que l'année prochaine, ils aient les bases nécessaires pour s'intégrer dans l'école normale.
Pour les professeurs, cette intégration doit se faire à double sens. Mais l'ensemble du corps enseignant dénonce une absence de préparation à leur égard. Écoutez Olga. Professeur de lettres très en colère.
On n'a pas fait le moindre séminaire ni reçu de directive de la part du ministère sur la façon de gérer l'intégration de ces enfants dans nos écoles. En tout cas, pas pour ce qui est des lycées et collèges. Mais à ma connaissance, pour l'école primaire, ça n'a pas été fait non plus.
Malgré tous ces efforts, il y a des enfants réfugiés qui n'iront pas à l'école cette année. Ce sont des jeunes adolescents afghans exclus de toute relocalisation et qui sont piégés dans la prostitution pour survivre. Daniel Esdras se sent impuissant.
Si tu vas dire à un jeune qui s'est accommodé de cette situation que ce n'est pas une vie, qu'il devrait faire autrement et reprendre l'école, il va te dire « Je gagne 50 euros chaque soir, est-ce que c'est toi qui vas me les donner ? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ?»
18 à 20 000 enfants réfugiés sont coincés en Grèce actuellement, dont plus de 3 000 non accompagnés. La Commission européenne vient de débloquer 118 millions en plus pour faire face à cette situation difficile à gérer.
L'intégration des écoliers réfugiés en Grèce, c'était un reportage de Thomas Jacobi, notre correspondant à Athènes. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter, télécharger et partager ce magazine en allant dans notre médiathèque sur le dw.com/français. On se retrouve dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !